Le Club de Tamani.
Le Club de Tamani.
Votre émission de tous les vendredis soirs sur Studio Tamani.
La culture.
Le sport.
La musique.
Les infos.
L'émission qui vous informe, cultive et divertit.
Le Club de Tamani.
Tous les vendredis à 18h15.
Vous permettre de passer un week-end agréable, c'est un devoir et un plaisir pour nous, chers auditeurs, et c'est le but de l'émission Club de Tamani, l'émission culture des studios Tamani. Nous sommes vendredi 25 avril 2025. Aujourd'hui, nous nous intéressons au totem. Qu'est-ce qu'un totem? Quelle est son origine? Pourquoi généralement les totems tournent-ils autour des animaux? Quelles sont les conséquences quand on transgresse un totem? Ces questions et tant d'autres seront répondues au cours de cette émission par notre invité. Il s'agit de Korejo Missa Doumbia, traditionnaliste bambana, président fondateur Blontigui de l'association culturelle Maya Blon. Comme à l'accoutumée, les rubriques ne manqueront pas. À la présentation, je suis Aïssata Diarra. Avec moi, Juliette Koulibaly. La mise en onde est assurée par Gagné Kanté. Bonsoir à tous et bienvenue. Bonsoir Julie, comment tu vas? La fête de Pâques, ça s'est bien passé?
Bonsoir Aïcha, je vais très bien. Nous avons prié, dansé, chanté, mangé. Mais avec la fatigue, la fête s'est bien passée.
Bien, merci donc. Alors vivement d'autres fêtes. Julie, je te propose de commencer cette émission avec de la bonne musique.
J'adhère à l'idée Aïcha, et c'est avec quel artiste?
Alors pour la première sélection musicale, nous allons écouter Van Guitar dans son titre Wari.
Le beat est malade quoi.
Sorti en 2024. Dans cette chanson, l'artiste explique un peu de la manière dont l'argent est prisé et perçu par les uns et les autres, surtout l'apport de l'argent dans la société, Aïcha.
Tout à fait, Juliette. À présent, place à la première rubrique de cette émission qui va nous faire le résumé de l'actualité de la semaine.
La revue de la presse.
Nous recevons ce soir Assetou Kanté qui va nous donner les grandes lignes de l'actualité cette semaine. Bonsoir Assetou.
Bonsoir Aïssata.
Comment tu vas?
Je vais très bien.
Alors, l'actualité a été surtout dominée par les conclusions issues de la consultation des forces vives des régions et de la diaspora en vue de la relecture de la charte des partis politiques. Des assises qui se sont tenues les 17 et 18 avril dernier. L'une des recommandations de ces consultations est la dissolution de tous les partis politiques du pays. Une décision contre laquelle des acteurs politiques, mais aussi des spécialistes du droit, s'insurgent
à
Assetou.
Tout à fait, Aïssata. L'ancien ministre Yaya Sangaré et militant de l'ADEMON PASJ dénonce une volonté de confisquer le pouvoir sans passer par les urnes. Dans les colonnes du quotidien L'Indépendant de ce jeudi, l'homme politique a fustigé les accusations portées contre la classe politique alors qu'il animait un panel organisé par le mouvement Génération Engagée. Monsieur Sangaré a déclaré que les partis politiques ne sont pas à l'origine de tous les maux du pays, même s'il admet qu'ils n'ont pas été à la hauteur des attentes des Maliens. Aujourd'hui, on accuse les hommes politiques de tous les noms d'oiseaux, mais les milliardaires ne se trouvent pas au sein de la classe politique. C'est au niveau des forces armées, a-t-il affirmé. Yaya Sangaré regrette que cette volonté des autorités actuelles de confisquer le pouvoir sans passer par les urnes est soutenue par des acteurs politiques. L'ancien président de l'Assemblée nationale, le professeur Alioune Diallo, également panéliste à cette conférence débat, a quant à lui appelé les acteurs politiques à définir une stratégie pour empêcher la dissolution des partis politiques. Il a toutefois assuré qu'il ne dévoilera pas la stratégie qu'il aura face aux militaires qui veulent dissoudre les partis. Et comme stratégie, Yaya Sangaré met en avant l'engagement des jeunes pour une démocratie irréversible.
Alors, Assetou, le M5-RFP tendance Choguel Kokala Maïga s'est aussi prononcé sur la question.
Effectivement, Julie, le mouvement dirigé par l'ancien Premier ministre demande au gouvernement de s'en tenir aux recommandations des Assises nationales de la Refondation. Le M5-RFP de Choguel Kokala Maïga recommande la réduction du nombre de partis politiques, titre l'Indépendant à sa une de ce mardi 22 avril. Dans un communiqué, le regroupement de l'ex-PM recommande de restreindre les conditions de création et de financement des partis politiques avec une réaffirmation du statut du chef de file de l'opposition. Le Mali vit des heures graves et ne peut rester indéfiniment dans l'exception, alerte Yessamaké, président du PACP dans l'Indépendant. Le Parti pour l'action civique et patriotique PACP a appelé à l'urgence d'agir face à la menace sur l'existence des partis politiques. Au Mali, le Mali vit des heures graves. Les fondements de notre nation sont secoués par l'insécurité, la fragilité institutionnelle, les retards électoraux, la précarité économique et la désespérance sociale, a déploré le président du PACP, Yessamaké.
Des spécialistes du droit aussi ont donné leur avis sur la question à Assetou Kanté.
Le juriste publiciste Mamadou Konaté qualifie de grave atteinte à la Constitution et à la loi portant charte des partis politiques, la dissolution des partis. Dans une tribune publiée dans le journal Les Échos du mardi 22 avril, M. Konaté affirme que dissoudre les partis politiques par ordonnance du chef de l'État, comme ce fut le cas au Niger, serait une énième atteinte à nos lois par celui qui est censé en garantir le respect. Selon lui, le chef de l'État empiéterait sur le domaine du jugement et les prérogatives du pouvoir judiciaire s'il prenait n'importe quel acte du pouvoir exécutif pour dissoudre les partis politiques, etc.
Et tous les acteurs politiques ne sont pas contre la dissolution des partis politiques, Assetou.
Tout à fait, Julie. Et parmi ceux qui ne sont pas contre, figure Aboubakar Sidik Fomba, président du parti ADPM et membre du Conseil national de transition. Dans une tribune signée dans l'Indépendant de ce jeudi 24 avril, ce soutien indéfectible des autorités actuelles martèle ceci: la dissolution des partis politiques est constitutionnelle. Selon M. Fomba, il y a une mystification et une manipulation autour de la relecture de la charte des partis politiques. L'argumentaire selon lequel le statut des partis politiques est de nature constitutionnelle est erroné et faux, insiste-t-il. Tout en essayant de démontrer la constitutionnalité de cette demande, M. Fomba affirme que la dissolution des partis politiques est une demande exprimée par le président du parti ADPM et membre du Conseil national de transition dans les colonnes de l'Indépendant.
Merci beaucoup à Assetou Kanté pour toutes ces informations et à tout à l'heure pour la version Bamanaka.
Aïcha, nous enchaînons maintenant avec les coulisses de l'info.
Les coulisses de l'info.
Oui, Julie, dans la rubrique Éducation aux médias, nous recevons Miss Hightech Fatoumata Koudjo. Bonsoir Koudjo et bienvenue sur ce plateau.
Bonsoir Aïcha ainsi qu'à tous nos auditeurs.
Alors, tu as quoi pour nos auditeurs aujourd'hui, Miss Hightech?
Alors, nous allons parler de l'impact de l'intelligence artificielle sur le travail des fact-checkers. Et pour en savoir plus, je me suis entretenue avec Alioune Diallo, journaliste fact-checker et membre de la plateforme Bembéré. Suivons ensemble.
Moi, j'estime que l'IA constitue à la fois un défi, mais aussi une opportunité pour les vérificateurs de faits. Une opportunité dans le sens où ça peut rendre le travail de recherche d'informations parfois rapide pour retrouver des sources. Alors, il appartiendra toujours aux fact-checkers d'évaluer la qualité de ces sources, de les interroger et de savoir les exploiter. Mais l'IA peut vraiment contribuer à être un élément qui permet d'aller plus rapidement dans le travail de la vérification, de la recherche d'informations. C'est aussi une menace parce que d'autre part, l'IA permet aussi aux acteurs de la désinformation, à ceux qui font de la désinformation, de pouvoir très rapidement aussi fabriquer des images qui n'ont jamais existé ou de créer des narratifs qui n'ont jamais existé. Et l'IA aussi donne cette possibilité-là à ceux-là aussi qui veulent mal l'utiliser. Et donc, de ce fait, alors aujourd'hui, les outils que utilisent les fact-checkers, notamment, je pense là aux outils de recherche d'inverser d'image. Pour le moment, ces outils-là ont du mal à pouvoir être quand même d'un apport assez important pour pouvoir travailler sur les images créées par IA, générées par l'intelligence artificielle. Et donc, cela aussi représente là les risques. Et il y en a d'autres, bien sûr.
Dans quelle mesure l'intelligence artificielle peut améliorer positivement la recherche des vérificateurs de faits?
Alors, elle peut, je le disais tout à l'heure, elle peut vraiment améliorer positivement la recherche de faits pour le vérificateur parce qu'elle permet d'aller vite. L'outil de l'IA permet d'aller rapidement dans la recherche des sources et ça, ce n'est pas du tout négligeable dans la mesure où ça prend énormément de temps pour les vérificateurs de faits de retrouver des sources. Parfois, c'est là vraiment le véritable travail du fact-checker.
Quelles peuvent être les limites et les dangers d'utiliser l'intelligence artificielle pour un vérificateur de faits?
Il faut faire extrêmement attention dans ce que l'IA peut donner comme information. En fait, on peut juste résumer en disant que ça reste un outil comme d'autres l'IA. C'est vrai que ça permet d'aller un peu plus vite et ça donne plus de données. D'accord, et ça permet d'organiser les données d'une certaine manière, mais ça reste un outil et ça ne remplace pas le travail humain, le bon sens qui doit accompagner la recherche, le classement et la vérification des faits. Donc les limites et les dangers, ça s'excuse juste à cette utilisation judicieuse qu'on doit avoir de l'outil. C'est un allié, mais ne pas le faire confiance à 100% et ne pas vérifier ce qu'elle peut donner aussi et chercher à encourager ce qu'elle y a fait donner.
Quelles sont les bonnes pratiques qu'un fact-checker doit adopter pour mieux appréhender l'intelligence artificielle au quotidien?
Un bon fact-checker doit être à jour, suivre l'évolution de l'IA, chercher vraiment à comprendre cette technologie et essayer de voir dans quelle mesure elle peut aider dans la recherche, dans la vérification des faits. C'est important, j'estime, d'être à jour sur ces outils-là parce que je pense que c'est les outils qui vont de plus en plus s'imposer et devenir incontournables. Et donc, il est important d'être vraiment à jour, de suivre l'évolution de ces outils-là. En tant que facteur, c'est ce qu'il faut faire. Chercher à les connaître, à les maîtriser, à comprendre leur fonctionnement et pouvoir les utiliser de façon assez intéressante.
Eh bien, j'espère que les auditeurs ont pris bonne note et à la prochaine pour d'autres astuces pour mieux comprendre les médias.
Merci Fatoumata Koudjo et maintenant Julie.
Accueillons à présent l'invité culture.
L'invité culture.
Comme annoncé à l'entame de cette émission, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau ce soir Korejo Missa Doumbia, traditionnaliste bambana, président fondateur Blontigui de l'association culturelle Maya Bilo. Bonsoir Monsieur Doumbia et merci d'avoir répondu à notre invitation.
Bonsoir à vous, bonsoir à tous nos auditeurs.
Alors, Monsieur Doumbia, c'est quoi un totem?
Vous avez déjà présenté notre association, Maya Bilo. Maya Bilo parle de tradition, de culture et de gouvernance. Avant d'arriver au sujet, vous savez que cette année a été déclarée année de la culture au Mali. Et nous, les acteurs culturels, c'est à nous de donner un contenu. Nous saluons bien sûr le décret du président Goïta, mais un décret reste toujours un décret politique. Et le contenu qu'on met dedans, c'est le rôle de nous, les vrais acteurs de la culture. Et pour ça, je dois commencer par vous remercier, vous qui m'avez invité, parce que ainsi, vous êtes en train de donner un contenu à l'année de la culture. Je remercie la direction, le personnel de Studio Tamani et tous vos radios partenaires.
Merci beaucoup.
Un totem, vous savez, quand on parle de la langue des autres, on a un peu de la difficulté à se faire comprendre. Un totem, en Bamanangan, ça se dit Itana. En Bamanangan du Mandé, Itana. En Bamanangan du Belédougou, Itne. En Bamanangan du Jitmou, Itno. Donc un totem, c'est une entité naturelle qui crée un lien symbolique entre un individu, un groupe d'individus ou une communauté. Cette entité naturelle, ça peut être un animal, ça peut être une plante, ça peut être un objet, ça peut être un phénomène naturel et ça peut être même une conduite sociale. Donc c'est tout ça qu'on appelle un totem. Donc le totem peut être hérité de nos ancêtres et ça peut venir aussi de l'évolution sociale. Donc, en français simple, un totem, c'est une loi. Un totem, c'est un interdit. Alors, pourquoi des lois? Nos ancêtres ont conçu le totem comme des lois pour la gestion sociale, des lois pour le contrôle social, des lois pour l'autocontrôle et l'autogestion. Donc, c'est tout ça qu'on appelle, en français simple, un totem.
Alors, voilà. Mais quelle est son origine?
L'origine du totem, ça vient du génie même de nos ancêtres. Du génie de nos ancêtres. C'est-à-dire que ce n'est pas les Blancs ou les Arabes qui ont amené ça chez nous. C'est-à-dire que chaque peuple a des vécus, des pratiques, de l'expérience. Et à partir de ces pratiques, de ces expériences, de ces vécus, ils ont pu déterminer qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais, le bien et le mal. Cette dualité entre le bien et le mal, c'est ça qui a amené la notion de totem. Ce qui est bien pour toi, tu peux le faire. Mais ce qui est mauvais pour toi, tu ne dois pas le faire. D'accord. Et ce qui est mauvais pour toi, c'est ton interdit. Et cet interdit, c'est ça, le totem.
Alors, M. Doumbia, vous l'avez dit, un totem, ça peut être un animal, un arbre ou bien autre chose. Oui. Alors, mais pourquoi les totems tournent généralement autour des animaux?
C'est une conception simple, simpliste. Le totem, il y a deux volets. Et le totem a été conçu pour la préservation de la nature, d'abord. Et dans le volet préservation de la nature, effectivement, ça tourne autour des animaux. Parce que le totémisme avec les animaux, c'est une espèce de parenté sacrée entre un animal et un groupe d'humains, la parenté sacrée. Donc, ça veut dire que dans les temps très anciens, un de nos ancêtres a été sauvé par un animal. Et l'animal ne sauve pas un humain comme ça. Donc, il a fallu une force divine pour que l'animal vienne au secours de l'humain. Et l'humain, ayant eu la vie sauve, va désormais dire à ses descendants, ne tuez plus cet animal, ne mangez plus cet animal, parce que c'est notre sauveur. Donc, nos ancêtres ont pensé que l'énergie qui est dans l'animal, c'est la même énergie qui est en nous, les humains, ou bien au moins dans ce groupe d'humains-là.
Okay. C'est pourquoi on voit dans certaines communautés qu'il y a des totems concernant les liens du mariage.
Voilà, ça c'est un autre volet. Bon, ce dont vous parlez là, concernant ça c'est le volet, la préservation de la société, la préservation de l'environnement, la préservation des liens sociaux. Et dans ce cadre-là aussi, ils ont fixé des lois, des totems. Par exemple, pour le cas que vous évoquez, on peut dire qu'un homme bamana ne doit pas marier une femme forgeron. Ils ont institué ça. Il n'y a rien de hasard dans la vie. Hein. Toutes les choses, comme je l'ai dit, le totémisme est venu du génie de nos ancêtres. Ils ont fait des observations, des pratiques, des expériences. Parce qu'on a des objets sacrés dans le monde bamana qui sont confectionnés par des forgerons, mais Les forgerons, on appelle les Noumou. Eux, ils n'ont pas les secrets. Et les vrais secrets sont détenus par les Bamana. Donc, on ne peut pas... Parce que dans nos sociétés traditionnelles, les rôles étaient répartis entre chaque groupe. Un groupe ne doit pas tout détenir. Donc, si on donne le secret de fabrication aux forgerons, plus les secrets de faire fonctionner la chose aux forgerons, ils vont être imbattables dans la société. Donc, on a réparti et on a donné certains secrets aux forgerons. C'est eux qui fabriquent. Comme ça, là, des outils. Bon, maintenant, pour faire fonctionner les outils, le secret appartenait au Bamana. Bon, pour que les secrets soient bien conservés et qu'il n'y ait pas de fuite, on a imposé la limitation du mariage entre forgeron et Bamana.
C'est valable pour les autres.
C'est valable pour les autres. Il y a toujours des raisons pratiques comme ça, là. Mmh. Parce que quand on est en très bonne entente avec sa femme, mmh, on est souvent tenté
d'être
indiscret.
D'accord. Mais pour les arbres, comment c'est venu?
Le totémisme, c'est aussi la préservation de soi. Les arbres, souvent, c'est les plantes. Vous savez, certaines choses, on peut manger et ça ne te fait rien. D'autres plantes, quand tu manges, ça te rend malade. Donc... Et ce n'est pas pour tout le monde. Une plante peut moi me rendre malade, mais ça ne va rien te faire à toi. Mm-hmm. Donc, c'est pour qui un arbre est un totem. Et ils ont observé que l'énergie qui est dans cette plante-là n'est pas compatible avec l'énergie de la lignée qui a pris l'arbre comme son totem. Et ils ont institué le totémisme comme ça. Voilà.
Alors, vous avez dit qu'on peut hériter d'un totem. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on peut se créer aussi un totem?
On peut se créer un totem.
Comment?
Parce que, d'abord, hériter d'un totem. Si on regarde le Mali actuellement, on peut dire que le problème, la difficulté que le Mali vit aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas respecté les totems. Nous avons transgressé les totems en ethnicien. Parce que quand on regarde le Mandé, le grand Mandé, l'empereur du Mandé avait fixé des totems. Par exemple, sur la terre. Ils avaient dit que la terre du Mandé est une terre sacrée. On n'a pas le droit de refuser la terre à quelqu'un. Quand quelqu'un vient au Mandé, il veut une terre pour construire sa maison, il veut une terre pour cultiver. On est obligé de lui donner la terre. Mais en contrepartie, nul n'a le droit d'amener la terre du Mandé ailleurs. Mmh. Et ça veut dire quoi? Et aujourd'hui, quand tu vas dans le Mandé commence à Sébéningoro, hein, oui, jusqu'à Kouroussa en Guinée, le petit Mandé. Et aujourd'hui, les gens du Mandé ont transgressé cette loi parce qu'ils ont mis des bornes partout, ils ont morcelé les terres, ils ont créé des titres fonciers. Ils ont transgressé la loi du Mandé. Donc, on vit dans cette difficulté aujourd'hui. L'autre exemple, c'est le fleuve Djoliba, le fleuve Niger. Nos ancêtres ont dit le fleuve est sacré. À 100 mètres du bord du fleuve, personne ne doit couper un arbre. Personne ne doit creuser un trou dans le lit du fleuve. Aujourd'hui, allez-y voir le fleuve à Bamako. Les gens ont construit jusque dans le lit du fleuve. Pire que ça, nous avons poussé l'inculture jusqu'à aller remplir le fleuve avec des remblais. On est parti prendre la terre. Pendant 7 mois, on est parti remplir le fleuve devant l'INSUP pour construire un soi-disant espace d'exposition ou espace de foire. Est-ce que le Mali manque de terre pour aller boucher le fleuve alors que nous avons de l'espace partout? Aujourd'hui, on a détruit les forêts sacrées, les bois sacrés, parce que les religions sont venues. Donc, c'est comme si quelqu'un qui détruit une forêt sacrée, c'est comme s'il a détruit un hôpital, il a détruit une pharmacie, il a détruit un tribunal. Donc, l'environnement était sacré chez nous. Ça, c'est la malédiction. Donc, c'est ça la transgression des interdits. Et c'est ce malheur-là qui frappe ce pays aujourd'hui. C'est créer nous-mêmes des problèmes. Et n'allez pas chercher loin, hein. La source est là.
Merci beaucoup, M. Doumbia, pour ces premières réponses. Je rappelle que nous sommes avec Koredjo Missa Doumbia, traditionnaliste Bambana, président fondateur Blontegui de l'association culturelle Maya Blo. Nous allons prendre une deuxième pause musicale, Juliette.
Aïcha, lorsqu'on parle de Takamba, tu penses à quelle localité?
Le nord du Mali, bien sûr.
C'est exact. Nous allons écouter une chanson de Habib Koité et le titre, c'est Takamba.
Come back. Gameura, Koira Fogono, Imanase, Takamba. Aywa doji kana Takamba Gano.
Takamba de Abibo Kouate, une chanson sortie en 2001. Nous revenons à notre invité pour la deuxième partie de ce numéro. Pour rappel, chers auditeurs, vous suivez les clubs de Tamani, l'émission culture des studios Tamani. L'invité de ce soir est Koredjo Missa Doumia, traditionnaliste Bamana, président fondateur Blontiki de l'association culturelle Maya Blo. Alors, Monsieur Doumia, est-ce qu'il y a des personnes, des ethnies ou encore des communautés qui n'ont pas de totem?
À ma connaissance, en Afrique, non.
Et au Mali?
Surtout pas au Mali, parce que le Mali est un pays de tradition, parce que le Mali est un pays de culture. Et le génie de notre peuple a toujours fait que nos ancêtres ont défini ce qui est bien, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et tous les peuples du Mali ont des totems. Donc, pas seulement le Mali, et dans le monde entier. Même quand tu vas chez les Blancs, ils ont des totems.
Okay. Voilà. Dans la première partie de notre échange, vous avez un peu parlé de ça. Mm-hmm. Mais on dit souvent que quand on transgresse un totem, cela peut avoir des conséquences.
Ah, oui.
Mais quelles sont ces conséquences-là?
Transgresser des interdits, ça a toujours des conséquences. La première conséquence, c'est la conscience interne. Tu es en conflit avec ta conscience. Et ça peut amener des troubles de divers ordres. Le trouble le plus évident, quand on dit que ton totem, c'est une plante, si tu manges cette plante-là, tu vas tomber malade. Ça, c'est la conséquence. Quand on t'a interdit de te marier avec tel groupe, tu es parti faire ce mariage-là, tu vas avoir des enfants malades, des enfants caratoires, en tout cas, divers troubles, jusqu'à peut-être aboutir à un divorce ou des maladies bizarres que tu ne peux même pas expliquer. Donc tout ça, ce sont des conséquences de la transgression. Quand on a dit que ce n'est pas bon, alors il faut laisser. Il y a toujours intérêt à ne pas aller dans la transgression.
Mais quand on transgresse son totem par méconnaissance, cela aussi a des conséquences?
Les Bamanans disent que Fili bete djamfaye, Ntadon te djamfaye. Donc si tu transgresses par méconnaissance, ça peut ne pas avoir de conséquences directes sur toi, sur certains aspects. Mais sur d'autres aspects, comme je vous ai dit, le totémisme est vaste. Sur d'autres aspects, ça peut avoir des conséquences. Par exemple, tu ne sais pas qu'un aliment est dangereux pour toi. Mmh. Si tu le manges, ce n'est pas parce que tu ne le savais pas que l'aliment va te laisser. Hein, tu vas tomber malade. Donc, dans le même ordre d'idées, il y a plein d'autres situations où même si tu ne savais pas, tu vas quand même récolter les conséquences et tu vas commencer à te poser des questions. D'où viennent mes problèmes? D'où viennent ces troubles? Et à creuser, tu vas trouver que la source est là.
Alors, M. Doumia, le totem, est-ce qu'il est toujours d'actualité?
Ah oui, absolument. Le totem est toujours d'actualité et il sera toujours d'actualité tant que l'humain vit sur Terre. Ça peut changer de dénomination. Aujourd'hui, et avant, quand il y avait certaines choses, quand les malheurs t'arrivaient, les troubles t'arrivaient. Mais aujourd'hui, là, les sanctions sont évidentes. Là, hein. Quand tu brûles le feu rouge, là, le policier ou le gendarme là, va te prendre. Ça, tu as transgressé un interdit. Tu achètes une voiture. En plein Bamako, tu roules à 130 km à l'heure. Tu as transgressé. Tu vas rencontrer quelque chose. Le policier ou bien le gendarme va te prendre et te punir parce que tu as transgressé une loi, un interdit. Et voilà, ça, c'est les nouvelles formes de totem.
Merci encore, M. Doumia, pour ces réponses. Mais vous restez avec nous pour la suite de l'émission. À présent, Julie.
Aïcha, empruntons le chemin des stades.
Et ce soir, nous pouvons compter sur notre sportif maison. Il s'agit de Khalifa Goïta. Bonsoir, Khalifa.
Bonsoir, Aïssata. Bonsoir à tous nos auditeurs.
Alors, Khalifa, qu'est-ce qui fait l'actualité sportive cette semaine?
Le tirage au sort de l'Afro-Basket féminin 2025 a été effectué le mercredi. Les équipes pour les demi-finales de la Coupe du Mali sont connues. On parlera des nouvelles de cyclisme aussi.
Le Mali connaît ses adversaires pour le prochain tournoi de l'Afro-Basket féminin 2025, Khalifa.
Oui, c'était à l'issue de la cérémonie de tirage au sort qui s'est déroulée à Abidjan le mercredi en présence de plusieurs officiels de FIBA Afrique. Les Aigles d'Amos, vice-championnes d'Afrique, ont hérité de la poule B en compagnie du Cameroun et du Soudan du Sud. Pour la première fois, Abidjan organisera l'Afro-Basket féminin qui réunira 12 nations du 26 juillet au 3 août. Les équipes ont été réparties en 4 groupes de 3 équipes chacun. La Côte d'Ivoire, pays hôte du tournoi, est versée dans le groupe A. Les vainqueurs de chaque groupe se qualifient automatiquement pour les quarts de finale. Les équipes classées 2e et 3e de chaque groupe joueront une phase de qualification pour les quarts de finale. Les vainqueurs rejoignant eux aussi les quarts de finale. L'Afro-Basket féminin se tient tous les 2 ans.
Les équipes qualifiées pour le dernier carré de la 64e édition de la Coupe du Mali sont connues depuis ce mercredi, Khalifa.
Tout à fait. Il ne reste plus que 4 équipes pour les demi-finales de la Coupe du Mali. Il s'agit du Stade malien de Bamako, FC Diarra, le Djoliba AC et l'USFAS. En quart de finale, le Stade malien de Bamako a gagné contre ATS de Kourou sur le score d'un but à 0. Même score du FC Diarra devant Derby Academy au Stade Mamadou Konaté le mardi dernier. Le Djoliwase a battu l'US Bougouni 2-0. L'USFASAB a obtenu le dernier ticket des demi-finales après sa victoire au tir au but devant l'US Bougouba 4-3. Les deux équipes s'étaient neutralisées après prolongation 3-3. Par ailleurs, la 19e journée du championnat national débute ce dimanche avec le choc Stade Malien de Bamako Djoliwase. Ce match tant attendu dans la course pour le titre aura lieu au stade du 26 mars. En trois confrontations déjà cette saison, les Rouges de Bamako ont gagné 3 fois. Le Stade Malien de Bamako acceptera-t-il un 4e revers? La réponse, c'est ce dimanche à 17h.
Changeons de discipline pour parler du skilisme Khalifa. Le 20e tour du Bénin aura lieu le 28 avril au 4 mai 2025. L'équipe nationale du Mali va y participer.
Le sélectionneur national Modibo Goïta a fait le choix des 6 cyclistes. Il s'agit des aigles cyclistes Yaya Diallo, Sidiki Diarra, Tchemogo Djamtene, Daouda Djiré, Fidel Sissé et Djandouba Diallo. Le 20e tour du Bénin va se courir sur plus de 700 km. Il faut rappeler que la dernière étape de la 11e édition du Tour cycliste international du Mali a pris fin le 20 avril passé. C'est tout pour aujourd'hui. Aïssata.
Merci beaucoup Khalifa Guita pour ces informations sportives et nous t'accompagnons en musique.
Et Aïcha, nous allons écouter Madame Bass dans son titre Laïdou.
Est la date de sortie de ce titre Laïdou de Madamba en français Juliette, tenir sa parole donnée, c'est bien ça?
C'est exact.
À présent, nous recevons Assetou Kanté pour la revue de la presse en Bamanaka.
La revue de la presse.
Assetou Niula.
M'sé Aïssata.
Kouriba Sitila.
Basi Fochtena, Yeradoum.
Ayo, Bamanaka, Kounafounou Hukoum Konana. Politique, Mabouka Gafé, Lakourayali, Baraminou Kera, Maufé, Marabolo Konana, Aleni, Djamana Deminoumé Kokani, Okera, Avidekalo Kleta, Animounou Vla, Fokase Akleta, Anishekima. La Yindo Kera Akonana, Ni Odaye Keren Kereniala, Oka
Aïchata, ministre Koro ya Sangareni alebe ademan PSG la ale konimbe waleya kon minye nganyambe fangatigi la morola kaseka fangake ukilinta ka soro mateme kalaflu fe ale konimbe o waleya inkon indépendant konala alamsadu politiki ma inkon ya ajira ka foko nyangili mbeka taka politiki ton segere ko okon kuma otetien ye fora waleya konna kutola la jere do keneka o la jere minyere la bena e mouvement génération engagé fait o yoro kile na Adama Sangare ale koni a jira ka foko politique ton koni noté galea munu be malikan hal no asro la u koni masika malien kala nyunu be sabati aba jira ka foko bi ko politique mau kuma sugu be dola kelen folene oluma nga milliardaire munu be jamana kono ko olu koni te politique mau ye ko obe finitiki la mau de fanfe ka keni akakuma uye ya Sangare ale koni ya jira ka foko wale ya mbe jamana nyamoko kono kaseka fangata kake ukilinta ya kasoro mateme kalafilu ufe ko ukoni hakilina ya mi singoro tinti leno politiki mado ufe debito blon o nyamoko koro professeur Ali Nuhu Diallo ale koni fanatumbe la jere inkeneka ale koni ye wule wule dabla politiki mauma uka fereta kasta yasa politiki ton chili mukuma fora ukana sika ke nga aba prepelate ka foku bena feremta ko o kontena fo mogonyana ya Sangare aleba afaraka feremunu ka kata ubolo ko dobe talike shifunka chesirie omina beje fanga ukana sika dafrito ya shila
asetu kante shogel kokala maiga aleka M5RFP fana yi ida doni koina
kosabe Julie M5RFP o jakuli nyere minye nyamaye premier ministre koroye ale koni ba nyini gouvernement fe la nyini mununkera assise nationale de la refondation a ukada uluma pe shogal ko kala maiga ka M5RFP olukon ba nyini ko ka dobo politique ton la o fora indépendant ka titri folo la taratado avrika lot le mwa anifla seben don konna la ni jakuli ba nyini e sharia munumbe ke ka politiki ton dayele ka olu gerente ani wari munu bedo ako dafe ani ka fanga selamaton ka olu sinsi malibe gelea konna la wa antena seka to nina okoni wele wele daye minkera yesama kefe na aleye PACP nyamogo ye independa konna la aleye okumafo PACP nyamogo abe wele wele dabla bema bagabagalim beka takakera politiki ton sekere uka fere soro ula jona.
Aywa, situ kante minye sharia ko domba uye ulufana koni kumana ni kwenka?
Kwa sebe, sharia ko domba Mamadu Konate, ale koni ye politiki ton ka chili kukumai, ale koni be ojira kafoko oye dankarli gelenye jamana sharia la ani sharia minyere taleno politiki ton na. Lezeko konna la taratado avrika lot le mwa anifla. Mese Konate ajira kafoko ka politiki ton chi. Jamana nyema roka jamaria konna la inafo akera Niger togamna ko koni e dankarli belebele ye anga sharia ula olu yere menu karanka anga sharia nunu ku ubato ku anika utopoto
asetu kante politiki ton be koni ma yira ka foku mason gwaton no chilima
awo Julie o dobe talike e Abubakar Sidiki fomba kani aleye ADPM njamoye ni sente mafanado independent konna la ni alamsado avrikalot le mwa aninani ale miye fanga sengora matinti baral belebele badoye ayajira ka foko politiki ton chili ko okoni be talike shariaka kakeni Monsieur Fombaye, parti politique ka gafé mun karanka kalani watina maukoni marasaleno akula.
Asetu kanti ami foko sobe. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais avant nous donnons la parole à notre invité pour son mot de la fin et ce qu'il faut retenir des totems. Alors monsieur Doumbia,
je conclue en remerciant tous vos auditeurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que le Mali est un pays de grande sagesse et de tradition et nous devons domestiquer nos institutions. Et en domestiquant les institutions, il faut qu'on comprenne quels sont les outils que nos ancêtres ont utilisés. Et le totem était un outil de gestion sociale. Le totem était un outil de contrôle social, un outil d'autocontrôle et d'autogestion. Il faut que nous revenions à ces fondamentaux pour que notre pays soit apaisé, pour que nous redevenions nous-mêmes.
Redevenir nous-mêmes. Merci beaucoup, M. Doumbia. C'est la fin de cette émission. Merci, chers auditeurs, pour votre fidélité. Nous avons parler de totem ce soir avec M. Korejo Misa Doumbia, qui, je rappelle, est traditionnaliste bamanan et président fondateur Blontigi de l'association culturelle Mayablo. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur toutes les plateformes digitales de Studio Tamani à la présentation. C'était Aïssata Diarra et Juliette Koulibaly, coordination Sekou Gadjigo. La mise en onde a été assurée par Gagné Kanté. Merci à tous et à la semaine prochaine.